2023. Swing Time, une émission du Hot Club de Limoges sur Swing FM 101.2, présentée aujourd'hui par Alain Charbonnier. Bonjour Alain.
Bonjour Dominique.
Mon cher Alain, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ?
Eh bien, je vais présenter un musicien de jazz qui est sans doute pas très connu aujourd'hui et qui est pourtant essentiel dans le jazz. C'est un contrebassiste, un des meilleurs contrebassistes de jazz. Il s'appelle John Kirby et j'ai sous-titré cette émission « John Kirby, un classique du jazz ». On va comprendre pourquoi.
Eh bien, nous t'écoutons, mon cher Alain.
Très bien. Alors, je salue toutes nos auditrices et tous nos auditeurs, bien sûr, qui nous écoutent toutes les semaines, le jeudi, le dimanche, et qui mettent ça en podcast, donc ils écoutent tout le temps. Je voudrais parler aujourd'hui de John Kirby, qui fut un artiste à part entière dans le jazz. Ça a été un pilier de section rythmique. Il a d'abord joué du tuba, donc un instrument à vent, puis il a joué de la contrebasse, donc un instrument à cordes. Il fut aussi un remarquable chef d'orchestre entre 1937 et 1945, à la tête d'un sextet composé d'un cuivre, de deux anches, des anches, c'est les pieds roseaux, hein, bien sûr, et d'une rythmique classique, mais sans guitare. Excellent musicien, entouré de jazzmen de grande classe avec un effectif stable, il a développé un son tout à fait particulier qui fait qu'on reconnaît à tous les coups sa musique grâce à ses trouvailles harmoniques, parce que c'est très recherché point de vue musical. Il est aussi un des plus grands contrebassistes de l'histoire du jazz, ayant influencé jusqu'à Jimmy Blanton, qui a joué avec Duke Ellington. John Kirby est né à Baltimore le 31 décembre 1908 et est décédé à Hollywood, donc de l'autre côté des États-Unis, le 14 juin 1952. Nous allons d'abord l'écouter dans les différentes formes d'orchestre auxquelles il a participé, puis à la tête de son propre combo, et vous allez vous rendre compte qu'il joue à la fois classique et jazz. Commençons par écouter John Kirby, contrebassiste chez Fletcher Anderson, dans deux superbes interprétations du début des années 30, et concentrez-vous bien sur son jeu donc de contrebasse. On se concentre bien sur la contrebasse, qui est le pilier de la section rythmique. Premier titre, New King Porter's Tomb, et c'est enregistré à New York le 12 septembre ou le 9 décembre, on n'est pas sûr, 1932. Et le deuxième morceau s'intitule Can You Take It, et c'est enregistré à New York le 18 août 1933.
Thank you.
L'orchestre de Fletcher Anderson était encore un des tout meilleurs de l'époque, d'où un nombre de solistes formidables, comme Bobby Stark à la trompette, Hilton Jefferson à l'alto, Sandy Williams au trombone, Rex Stewart au cornet, Jesse Higginbotham au trombone, c'était dans le premier morceau, Coleman Hawkins au ténor, Dickie Wells au trombone, Russell Prokop à l'alto et Henry Red Allen à la trompette dans le second morceau. Donc c'était les deux premiers morceaux dans lesquels on a pu percevoir le jeu de John Kirby à la contrebasse. Avant de continuer, je voudrais faire un petit bonjour et vous signaler que nous avons à Limoges un taxi, c'est le taxi Philippe. Le taxi Philippe, on va le repérer facilement, il a un petit logo Swing FM. Et quand on rentre dans son taxi à Philippe, c'est pour ça qu'il faut le prendre. Qu'est-ce qu'on entend comme fond sonore ? Ben, Swing FM, c'est formidable. Merci Philippe et puis j'espère que vous allez le croiser dans Limoges. Je vais revenir à John Kirby, qui est tout de même le musicien du jour. Et on va le retrouver toujours au sein d'une grande formation. Cette fois-ci, on va le suivre chez Chick Webb. On va à nouveau apprécier sa pulsation à la contrebasse qui pousse tous ses compagnons. Et il est vrai que cet orchestre est drivé par l'excellentissime chef à la batterie, donc Chick Webb. C'est encore un incontournable du jazz qui s'intitule Stomping at the Savoy, enregistré à New York le 18 mai 1934. Dans cette interprétation, vous avez pu entendre Bobby Stark, le premier trompette solo, ensuite Sandy Williams au trombone, assez facilement reconnaissable, Elmer Williams au ténor, Tad Jordan qui était le second soliste à la trompette, Pete Clark à la clarinette, Edgar Sampson à l'alto qui était aussi l'arrangeur. Alors ce morceau est intéressant parce qu'entre Bobby Starr et Tab Jordan, c'est pas toujours facile de les distinguer. Donc là, si on passe ce morceau en boucle, on peut se familiariser avec la sonorité de chacun, le jeu de chacun, qui sont des jeux très proches tout de même. John Kirby a également apporté sa contribution décisive dans des sections rythmiques d'autres jazzmen réputés et en petite formation. Pour commencer, le voici avec Coleman Hawkins au ténor dans un chef-d'œuvre qui s'intitule Jamaica Shout, qui est enregistré à New York le 29 septembre 1933. Beau monde dans le studio parlophone, puisque on a entendu Bernard Addison à la guitare, Henry Red Allen à la trompette, Jesse Higginbotham au trombone, Hilton Jefferson à l'alto, et le pianiste était Horace Anderson, le frère de Fletcher, qui a arrangé d'ailleurs ce morceau. Le mois suivant, donc nous sommes en octobre 1933, c'est ce même pianiste Horace Anderson qui réunit 11 musiciens, dont John Kirby à la contrebasse. Et cela va sonner bien entendu différemment. Écoutez Ain't Ya Glad, enregistré toujours à New York, mais le 3 octobre 1933. En fait, c'est quelques jours après. Thank you. Avez-vous remarqué combien le jeu de contrebasse de John Kirby donnait une assise parfaite à la section rythmique, donc à toute la formation? Vous avez aussi entendu ici Claude Jones au trombone, sans doute Bobby Stark à la trompette, Russell Prokop était à la clarinette et vraisemblablement, bien sûr, Coleman Hawkins au ténor. On va retrouver une dernière fois John Kirby comme sideman, mais cette fois avec Mez Mezrou à la clarinette. C'est un morceau d'anthologie à nouveau, Apollo Jazz, enregistré à New York le 7 mai 1934. Notre contrebassiste pousse tout son monde, parmi lesquels vous avez pu découvrir Willie the Lion Smith au piano, Mez est à la clarinette évidemment, Bud Freeman au ténor, mais c'est pas un grand saxophoniste ténor, disons-le, Floyd O'Brien qui lui est un bon tromboniste, Benny Carter à l'alto qui grôlait de temps en temps avec son alto. Quant au batteur, eh bien c'était tout simplement Chick Webb. Dommage que la restitution du disque laisse un peu à désirer, mais c'était tout de même un superbe morceau à écouter. En 1938, John Kirby fonde une petite formation à la fois originale et brillante, qu'il appelle d'abord His Onyx Club Boys, du nom du club new-yorkais où il jouait alors. Il demande à ses musiciens des partitions originales, telles celles-ci, dues au trompettiste Charlie Chevers, qui s'intitule Rehearsing for a Nervous Breakdown, et s'est enregistré par Decca à New York le 28 octobre 1928. Thank you. la formation de John Kirby va peu bouger. Elle est composée, outre des deux musiciens déjà cités, de Buster Bailey à la clarinette, de Russell Prokop à l'alto, de Billy Kyle au piano et Donald Spencer à la batterie. Du pianiste Billy Kyle, voici maintenant From E flat to C, 28 octobre 1928, New York. From E flat to C, je signale que ça veut dire, en français, de La bémol à Do. C'est la tonalité du morceau qui est indiquée ici. Et vous avez compris que le style de John Kirby emprunte à la musique classique, qu'il pratique aussi une recherche musicale assez sophistiquée, mais toujours swingante. Et ce sera dorénavant sa marque de fabrique, d'où le titre de l'émission. Il ne faut pas s'étonner qu'il demande donc à Charlie Chevers d'arranger le délicat thème de Grieg, Anitra's Dance, et ça se situe à New York le 19 mai 1939. Thank you. deux morceaux qu'on vient d'entendre où la musique classique n'est pas tellement loin finalement. Hein. C'est bien un jazzman classique, ce John Kirby. Et on va revenir un tout petit peu en arrière parce que la séance précédente, donc celle qui précède mai 39, on est le 9 janvier 39, eh bien John Kirby va faire appel à Charlie Chevers qui va composer un magnifique thème, un blues qui s'intitule Effervescent Blues, qu'on écoute maintenant. Je suppose que vous avez reconnu Buster Bailey à la clarinette, Billy Kyle au piano, Honey Spencer à la batterie, qui tous swingaient joyeusement. Ça, c'est un sacré morceau qu'on va dédier, mais comme toute l'émission d'ailleurs, à quelqu'un qui nous a envoyé un don de soutien. On la remercie énormément. Il s'agit de Claudine. Et Claudine, elle aime Tsugi FM parce que cette radio l'enchante, c'est ce qu'elle nous a écrit. Elle doit aimer la radio d'ailleurs parce qu'elle habite du côté de Nieul, au pied de l'ancien émetteur, un magnifique bâtiment. Donc c'est forcément quelqu'un qui était destiné à écouter la radio. Elle était aux premières loges. Merci Claudine pour ce soutien. On va maintenant apprécier les mêmes musiciens dont Charlie Chevers à la trompette dans le morceau très classique composé lui par deux Williams, ils ne sont pas frères, hein, c'est Clarence Williams d'un côté, Spencer Williams de l'autre. Et ce morceau fait référence à un célèbre cabaret de Chicago, c'est Royal Garden Blues, enregistré à New York le 28 janvier 1939. Thank you. Bien sûr, le thème est reconnaissable, mais la façon de le jouer est typique de l'orchestre de John Kirby et chacun peut le reconnaître sans mal, je suppose, notamment à ce moment de l'émission, puisqu'on a écouté déjà 11 morceaux avec celui-ci de John Kirby. Et avez-vous remarqué l'efficacité du jeu de contrebasse du chef, qui était en solo et qu'on entendait fort bien cette fois? Il était avec ses remarquables boys, Billy Kyle au piano, O'Neill Spencer à la batterie, Buster Bailey à la clarinette, Russell Prokop à l'alto et bien sûr Charlie Chevers à la trompette. Le titre suivant va bien renforcer l'idée que John Kirby pratique le jazz comme s'il s'agissait d'une orchestration de musique classique, mais il y ajoute l'expressivité des instruments et le swing, c'est-à-dire les caractères du jazz. Faites-vous votre opinion avec ce standard signé Irving Berlin, Blue Skies, New York, le 10 août 1939. De la même séance, un autre titre bien connu qui met à nouveau en valeur Buster Bailey à la clarinette, Charlie Chevers à la trompette, Russell Prokop à l'alto, Billy Kyle au piano. Voici Rose Room, toujours New York, le 10 août 1939. Thank you. Eh bien, au nom que j'ai donné en annonçant ce morceau, vous ajoutez John Kirby, bien sûr, à la contrebasse, et O'Neill Spencer à la batterie, et vous avez la totalité du petit orchestre du sextet de John Kirby, mais je pense que maintenant vous le connaissez par cœur, puisque c'est toujours les mêmes musiciens. Le style si particulier de la formation de John Kirby fait qu'on reconnaît plus facilement son style élégant et recherché, aérien et swingant, que les thèmes joués. Amusez-vous à retrouver le thème ici, je vous le dirai après, on est à New York le 9 juillet 1940. Eh bien, c'était « Can't We Be Friends ?» Donc, on se trompe soi-même, là, parce que faut reconnaître le thème, et je vous propose de l'écouter, ce même thème de « Can't We Be Friends ?» dans une autre version. Par exemple, le duo entre Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, la version vert de 1956. Et vous allez vous rendre compte que l'arrangement ici et les improvisations modifient totalement le thème. Nous allons rester avec un standard du jazz qui est confronté à nouveau à la façon de créer de l'orchestre de John Kirby. J'ai choisi une version vidisque plutôt que l'enregistrement du même titre en studio, qui était fait à peu près à la même époque, car je trouve que le jeu du chef, donc de John Kirby à la contrebasse, est plus mis en valeur. Il s'agit de Coquette, un vidisque enregistré à New York pendant l'été 1941. Thank you. nous allons revenir à une composition originale du groupe. Celle-ci est co-signée John Kirby et Charlie Chevers. Le personnel n'a toujours pas changé, ce qui explique la cohésion de cet orchestre et ce son si particulier. Voici Fifi Rhapsody, enregistré chez Victor à New York le 25 juillet 1941. N'est-ce pas que le sous-titre de cette émission, un classique du jazz, se justifie, notamment quand on écoute une pareille interprétation. Le son Kirby et les arrangements inspirés de la musique classique se retrouvent dans n'importe quel morceau interprété par la formation de John Kirby, fût-ce le plus classique du jazz tel St. Louis Blues, gravé à New York le 11 février 1942. Thank you. Charlie Chevers était encore drôlement inspiré à la trompette, tout comme Billy Kyle au piano, mais leurs autres comparses étaient également inspirés. John Kirby poussait tout le monde avec sa contrebasse, Buster Bailey à la clarinette s'est rappelé la version du même type par Louis Armstrong avec cette note tenue qui semble ne pas vouloir s'arrêter. Et à propos, n'avez-vous pas remarqué que le drumming était un petit peu différent, quoique toujours en souplesse et en swing? Et si vous l'avez remarqué, c'est fort bien, parce qu'effectivement, le batteur a changé. O'Neill Spencer est remplacé par Spex Polwell, qui est un bon batteur, pas connu, oublié aujourd'hui, mais un très très bon batteur de jazz. Pour terminer cette émission, voici un autre vidisque de 1943, cette fois avec une formation kirbienne un petit peu modifiée. George Johnson tient le saxo alto, Clyde Hart le piano, Bill Bison la batterie. C'est un classique emprunté à Earl Warren et à l'orchestre de Count Basie. Ça s'intitule 920 Special, V-Disque enregistré à New York au début novembre 1943. Forcément, vous avez reconnu Charlie Chevers à la trompette et Buster Bailey à la clarinette, sans compter le chef John Kirby à la contrebasse, qui étaient les trois autres membres de l'orchestre. Quand je vous ai annoncé en début d'émission un classique du jazz, vous avez perçu que c'était bien la démarche de John Kirby. Le choix de morceaux de musique classique, assez souvent, des compositions ou celles de ses musiciens, des arrangements qui évoquent toujours une musique pleine de recherche harmonique, un son élégant et novateur, toujours avec un swing remarquable que John Kirby propulse depuis sa contrebasse. Vous pouvez maintenant compléter cette émission en recherchant d'autres titres de ce fantastique sextet qui n'a rien produit de mauvais, même si sa meilleure période va de 1937 à 1942. Un bon disquaire ou les sites en ligne peuvent vous aider dans cette quête et vous pourrez continuer l'aventure avec le plus petit des grands orchestres. Thank you.
C'était Swing Time 2023. Swing Time présenté aujourd'hui par notre historien préféré, Alain Charbonnier. Eh bien, merci Alain pour cette merveilleuse petite formation de John Kirby. Tu nous as fait découvrir même des V-disques de John Kirby.
Assez formidable, rare.
Voilà, très rare.
Assez rare. Voilà.
Merci Alain. Et puis,
de rien.
À une prochaine fois, Alain.
À une prochaine fois et on salue toutes nos auditrices, tous nos auditeurs, dans le monde entier, évidemment.
Eh bien, bien sûr, Alain. Au revoir à tous
et
à toutes.